France Culture.
Chers auditeurs, bonjour. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous sommes à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le frère dominicain François-Xavier Ledoux. À l'orgue, vous entendez Nariné Courchoudian. Les chants seront animés par Reine Grâce, Haute et Siké.
Et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, frères et sœurs, en cette chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Bienvenue à vous aussi, chers auditeurs et auditrices de France Culture, qui nous rejoignez par les ondes pour que nous célébrions ensemble le Christ mort et ressuscité pour nous. Oui, Dieu nous accueille en sa maison et en ce troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole de Dieu au plein cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, journée mondiale aussi des lépreux, nous implorons la miséricorde de Dieu sur toute notre vie et nous reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur.
Paroles, Seigneur, sont esprit et une Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Quel point commun y a-t-il, frères et sœurs, entre l'assemblée réunie autour du prêtre Esdras et celle réunie autour de Jésus dans la synagogue de son village d'enfance, Nazareth ? Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Mais si ce point commun qui réunit la première lecture et l'évangile de ce jour est bien l'annonce de la parole de vie et de vérité que Dieu veut offrir à son peuple, une très grande différence existe aussi entre nos deux textes. La réception de cette parole par l'assemblée présente n'est pas du tout la même. Dans le livre de Néhémie, nous avons entendu que tout le peuple accueille favorablement la parole d'alliance que Dieu lui propose en la ratifiant par des amens sonores, des inclinations, des prosternations, des pleurs. Esdras invite alors le peuple à se réjouir de son choix en festoyant et en partageant. Dans l'Évangile, tout au contraire, nous n'avons rien entendu de tel à la suite de l'extrait du prophète Isaïe lui est commenté par Jésus. Et pour cause, la liturgie a malheureusement amputé notre texte de sa partie essentielle, la réception par les habitants de Nazareth de cette bonne nouvelle. Or, dans le judéo-christianisme, il n'y a de parole de Dieu que si elle est proclamée, interprétée, actualisée et reçue, puisqu'il s'agit d'une parole d'alliance. Le rappel de cette réception est donc absolument indispensable, frères et sœurs, pour pouvoir véritablement comprendre en quoi et comment le passage de l'Écriture que nous venons d'entendre de la bouche du Christ s'accomplit pour nous aujourd'hui. Or, souvenons-nous, la prédication de Jésus est un échec total. Dans quelques instants, il va leur dire ces paroles devenues un proverbe célèbre. « Nul n'est prophète en son pays. » Et ils vont le chasser de la synagogue, puis le mener jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Dès le début de son ministère public, voilà Jésus rejeté par les siens. Il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, dit l'évangéliste Saint Jean au début de son prologue. Souvenons-nous aussi de sa naissance, hors de la salle commune. Et ce rejet restera un compagnon constant de sa vie, si je puis dire. C'est pourquoi Jésus sera toujours un allié solide pour les personnes rejetées. C'est donc en ce sens que, comme il l'a annoncé, la prophétie d'Isaïe s'accomplit et s'actualise dans la synagogue de Nazareth. La parole qui était auprès de Dieu depuis toute éternité s'est faite chair de notre chair pour se faire proche et être avec, au plus près, des rejetés de son temps, pauvres, malades, lépreux, captifs, aveugles, boiteux et opprimés, sont sa priorité. Car l'homme Dieu le sait et il est venu l'éprouver jusque dans sa chair pour que la nôtre puisse être définitivement unie à la sienne et ainsi être sauvée. Vivre le rejet est l'une des expériences humaines les plus crucifiantes de l'existence. Du reste, la plupart d'entre nous, nous prenons des mesures actives pour éviter d'être rejetés. Pour certains, cela signifie ne pas s'exprimer lorsque la vérité sur nos lèvres pourrait être considérée comme controversée. Pour d'autres, cela se traduit par le fait de se détourner de circonstances difficiles. D'autres encore changent la façon dont ils se présentent au monde afin de s'intégrer, de se fondre à la foule. Le rejet peut être douloureux sur le plan relationnel, émotionnel, mental, psychologique, spirituel et même financier. En d'autres termes, il peut avoir un impact sur tous les aspects de notre être et de notre vie. Notre sécurité même peut être menacée par le rejet. En outre, le rejet s'étend souvent au-delà des individus à des catégories ou des groupes entiers de personnes. L'oppression systémique sert de forme extrême de rejet pour cibler les étrangers, les migrants, les personnes handicapées ou non conformes aux normes édictées par la société ou la religion. Le rejet couplé au pouvoir conduit aussi souvent à l'indifférence à la souffrance humaine. Surmonter le rejet demande donc du courage et de la conviction. Pour certains, cela demande le travail d'une vie face à l'omniprésence des systèmes oppressants qui dévalorisent et humilient des vies humaines. D'autres ne rencontrent le rejet que de manière ponctuelle. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces situations, qui se lèvera, frères et sœurs, pour annoncer une bonne nouvelle à celles et ceux qui sont rejetés? Car pour être clair, ce n'est pas seulement la personne de Jésus qui est rejetée, mais sa bonne nouvelle elle-même, son évangile qui menace les systèmes de pouvoir et appelle les gens à choisir. Suivrons-nous, nous aussi, la direction de l'Esprit? Reconnaîtrons-nous que la bonne nouvelle s'adresse avant tout à celles et ceux qui en ont besoin, et non à ceux et celles qui sont déjà couverts de confort et de privilèges? Autrement dit, apporterons-nous la bonne nouvelle à ceux et celles qui sont rejetés et opprimés, la liberté à ceux et celles qui sont enchaînés, et l'accessibilité aux personnes porteuses d'un handicap? Que proclamons-nous avec nos mots, notre liturgie et notre témoignage? Un jour, dans une prison américaine, un étudiant en droit visite un jeune homme afro-américain qui se révélera par la suite avoir été injustement condamné à mort. Voici comment cet étudiant témoigne de cette rencontre. Le condamné ne s'est pas approché et comme je ne savais pas quoi faire d'autre, je lui ai tendu la main. Il l'a serrée prudemment. Nous nous sommes assis et c'est lui qui a pris la parole en premier. « Je m'appelle Henri », a-t-il dit. Les premiers mots que j'ai prononcés ont été « Je suis vraiment désolé ». L'homme m'a alors regardé et m'a demandé avec inquiétude « Tout va bien avec mon dossier ?»« Oui, monsieur », ai-je répondu, « vous ne risquez pas d'être exécuté au cours de l'année prochaine. Nous nous efforçons de vous trouver un avocat, un vrai avocat, et nous espérons qu'il viendra vous voir dans les prochains mois. Moi, je ne suis qu'un étudiant en droit, mais je suis très heureux de pouvoir vous aider si je peux faire quelque chose. » L'homme interrompt mon bavardage en m'attrapant rapidement les mains et me demande avec étonnement « Je n'aurai pas de date d'exécution dans l'année qui vient ?»« Non, monsieur. Ils ont dit qu'il faudrait au moins un an avant que celle-ci ne soit fixée. » Ces mots ne m'ont pas semblé très réconfortants. Mais Henri a serré mes mains de plus en plus fort en me disant « Merci. Je veux vous dire vraiment merci. C'est une très bonne nouvelle. » Ses épaules se sont relâchées et il m'a regardé avec un soulagement intense dans les yeux. « Vous êtes la première personne que j'ai rencontrée depuis plus de 2 ans après mon arrivée dans le couloir de la mort, qui ne soit pas un autre condamné ou un gardien. Je suis très heureux que vous soyez là et très heureux aussi d'apprendre cette bonne nouvelle. » Frères et sœurs, en cette journée mondiale des lépreux et en cette année jubilaire, année favorable accordée par le Seigneur, nous qui, depuis notre baptême, avons reçu l'Esprit du Seigneur et sommes membres du corps du Christ, en ayant été marqués de l'onction sainte qui nous a tous consacrés prêtres, prophètes et rois, puissions-nous être toujours plus proches des rejetés et des opprimés de notre société pour ne former avec eux qu'un seul corps, en priant pour eux, en dénonçant les humiliations, les discriminations et les injustices dont ils sont victimes, et en servant dans la charité et dans la justice Jésus lui-même, présent en tous ses frères, surtout dans les plus petits. C'est ainsi que nous serons de véritables pèlerins de l'espérance chrétienne, de vrais témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour chacun, et que nous ratifierons en vérité sa parole d'alliance en nous mettant au service de l'unité de tout le genre humain pour sa plus haute gloire et le salut du monde. Amen.
L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le frère François-Xavier Ledoux. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante. Homélie radio diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
Proclamons tous ensemble la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit, confiant dans son action en nos cœurs et dans le monde, présentons à Dieu, notre Père, toutes nos prières.
Vivante, la parole de Dieu est neuve chaque jour. Pour les chrétiens, qu'ils apprennent à la lire, à la partager et à la prier en petite communauté de proximité, prions le Seigneur. Pape François a institué ce dimanche, dimanche de la parole. Pour les exégètes, les prédicateurs, les enseignants, les équipes liturgiques, que tous soient au service de la parole. Prions le Seigneur. Baptisés, appelés à s'engager dans la solidarité et les œuvres de miséricorde, que par eux le Christ soit annoncé à tous. Prions le Seigneur. La parole de Dieu est contagieuse pour nous tous ici rassemblés. Que nous devenions porteurs de la bonne nouvelle auprès des pauvres, des migrants, des malades. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Jésus, lumière des hommes, sanctifie ton peuple et donne-lui de grandir en paix sous ta protection. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. La quête de ce dimanche est destinée à la chapelle.
Thank you. frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
Nous levons
notre esprit. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Ses paroles et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec notre pape François et notre évêque Laurent, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.
Délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps, Seigneur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix ». Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu nous invite à son festin, table où Dieu lui-même se donne. Notre chant de communion est le chant numéro 13 sur vos feuilles.
Prions encore et toujours le Seigneur.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons là de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur.
Je vais à présent bénir les médailles, les chapelets et autres objets de piété apportés à cette intention. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant et en s'en servant à être transformés par la puissance de l'Esprit-Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec
vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Nous prenons le chant numéro 23, source pure. Chant numéro 23.
Ainsi s'achève cette messe du troisième dimanche du temps ordinaire, célébrée à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Nous remercions le Père François-Xavier Ledoux, qui a présidé et prêché, Reine Grâce Haute-Essiquée pour les chants, Narinié Courchoudian à l'orgue, et pour la prise de son, Lucien Lefebvre et Christophe Michou. Dimanche prochain, 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, nous serons à nouveau à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le Père Gilles Drouin. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie Radio Diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Homélie Radio Diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Hervé Gardette.